Vous écoutez
RMC. Le journal avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. La Gironde commence un peu à souffler. L'incendie est toujours stabilisé ce matin, ce qui rend les autorités optimistes. Nous serons en direct de Lesches-Cap-Ferret auprès des pompiers. Un afflux de migrants jamais vu depuis 5 ans dans l'enclave espagnole de Ceuta, frontalière avec le Maroc. Plus de 1500 personnes arrivées illégalement ces derniers jours. Et puis Zinedine Zidane va-t-il faire cracher le site de la billetterie des matchs des Bleus? Les fans sont déjà prêts à prendre leurs billets pour les rencontres de début octobre au Stade de France.
En Gironde, les autorités commencent très prudemment à entrevoir le bout du tunnel.
La situation est stable ce matin. Le feu est contenu dans son périmètre selon les dernières précisions de la préfecture. Les autorités hier affichaient pour la première fois depuis un peu plus d'une semaine leur optimisme. La moitié des habitants évacués sont désormais de retour chez eux avec toujours de la prudence puisque le feu est encore actif. Au Porge, un groupe d'habitants organise des rondes jour et nuit pour surveiller des zones où le feu pourrait reprendre. Célestin Bougère.
À 30 mètres de sa maison, Thierry a déployé un simple tuyau.
Un tuyau d'arrosage, un petit tuyau.
De la fumée s'échappe encore du sol au contact de l'eau. Le bois tout autour est noir, complètement calciné. Un masque sur le visage, Thierry tente d'éteindre les points chauds encore nombreux.
Les pompiers sont passés, mais je refroidis encore parce que ça continue. Hein. Le combat avec cette terre-là, c'est sans fin parce que le feu est dessous en fait. On le voit pas là. Et il peut très bien se rallumer un peu plus loin.
Avec une quinzaine de personnes, il se relaie pour surveiller le secteur même la nuit.
On tourne et on se relève toutes les 1h30. On commence à 11h le soir et jusqu'à 8h le matin.
À ses côtés, Maxime, lui, ne vit pas au Porge, mais il a posé des congés pour aider des amis qui habitent ici.
On appelle les pompiers quand il y a un gros départ qu'on n'arrive pas à gérer. Quand ils sont pas là, on fait des pare-feu pour protéger les habitations, les lotissements.
Cette fois-là, les pompiers aident le groupe à noyer la zone. Les amis s'accordent une petite pause à la salle des fêtes du village. Sur le chemin, Maxime craque en voyant sa région méconnaissable.
On la verra pas comme on l'a connue, quoi. Ça nous prend au trip, quoi. On peut pas le cacher. Je pense que vous demandez à tous les gens qui sont là, ils vous diront la même chose.
Le groupe de bénévoles s'attend à lutter pendant des semaines, voire des mois, avant d'éteindre complètement ce feu.
Célestin Bougère avec Marion Gauthier pour RMC. Des bénévoles pour épauler les 3300 pompiers toujours mobilisés sur place. Inès Zegloul, vous êtes l'une des envoyées spéciales d'RMC en Gironde en direct de Lesches-Cap-Ferret ce matin au poste de commandement des pompiers. Inès, la nuit a été calme, mais ils sont donc toujours sur le qui-vive, hein?
Et sur le parking, c'est le chassé-croisé encore ce matin entre ceux qui partent sur le front des flammes et ceux qui vont enfin pouvoir profiter d'un peu de repos, d'une tasse de café bien chaud, toujours engourdi après une nouvelle nuit sur le terrain. Certains toquent même à la porte de l'infirmerie de fortune qui est installée ici à la hâte, hein, dans le gymnase, à la recherche de soins médicaux ou d'un kiné par exemple. Je viens d'y croiser le lieutenant-colonel Casson qui s'apprête lui à grimper dans l'un de ses camions rouges. Il est médecin-pompier, c'est lui qui va au plus près des flammes pour prendre en charge ses collègues.
Le risque principal est la toxicité des fumées d'incendie avec des particules en suspension dans l'air et une qualité de l'air très altérée, encore plus bien évidemment au contact rapproché du feu. Nous sommes aussi très vigilants par rapport au risque d'intoxication au monoxyde de carbone. On a peur pour nos copains, pour nos collègues.
Alors, il recueille les dernières informations auprès des sapeurs de la nuit. Les relèves de la journée, elles, filent donc notamment en direction du Cap-Ferret, en direction de Lacano. Ce sont les deux foyers actifs qui inquiètent ici les soldats du feu aujourd'hui. Nuit calme, donc, vous l'avez dit, mais prudence, me glisse l'un d'entre eux.
Inès Zegloul, en direct de Lesches-Cap-Ferret pour RMC. Et bonne nouvelle également dans les Landes, où l'incendie est maîtrisé. Tous les quartiers de Biscarrosse vont rouvrir à la circulation, annonce le préfet. Le feu a brûlé en une semaine 3600 hectares.
Et ce mois de juillet entre dans l'histoire. 3 des 15 plus gros incendies de ces 10 dernières années en Europe ont eu lieu ce mois-ci.
Favorisé par le dérèglement climatique, estiment des scientifiques du World Weather dans leur dernière analyse ce matin. Charlène Ville, les conditions climatiques en Europe sont plus favorables aux incendies.
À cause notamment du changement climatique d'origine humaine. Aujourd'hui en France, on a 2 fois plus de chances d'être touché par des incendies extrêmes et 6 fois plus en Espagne. Un incendie d'une telle intensité pourrait se produire tous les 20 ans dans l'Hexagone et tous les 6 ans dans la péninsule ibérique. C'est ce qui ressort de cette étude scientifique internationale. En cause, des hivers très pluvieux avec une végétation croissante et puis des étés très secs et très chauds. Résultat, les sols et la végétation sont donc asséchés, des combustibles plus facilement disponibles. Ce qui se passe actuellement en ce seul mois de juillet, 3 des 15 plus gros incendies en Europe en l'espace de 10 ans ont eu lieu. Figure au classement des pays les plus touchés, l'Espagne et puis maintenant la France avec les incendies en Gironde. 42 000 hectares ont brûlé. C'est la deuxième plus grande superficie dévastée dans le pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Des dégâts matériels, des villes évacuées, puis des risques aussi pour la santé, notamment à cause des fumées et des particules fines.
Les précisions de Charlène Villemer. Merci Charlène. En raison des incendies en Courbison Futé, appelle les automobilistes à éviter de se rendre dans le département ou de le traverser en Gironde pour laisser les routes libres pour les secours. C'est noir dans le sens des départs aujourd'hui dans le sud-ouest, rouge partout ailleurs et toute la France sera en noir demain pour ce week-end de chasse et croisée. La Fondation Vinci Autoroute dénonce ce matin des comportements alarmants. Après ce sondage Ipsos qu'elle publie, près d'un fumeur sur cinq admet jeter son mégot par la fenêtre en voiture, alors qu'une immense majorité de Français se disent conscients du risque que cela comporte pour les incendies. Constance Bostoen, comportement dangereux encore très répandu.
Sur l'aire d'autoroute de Saint-Arnoult, au sud de Paris, une mère de famille écrase sa cigarette sur le trottoir sous les yeux de Mélick et Thierry, garés quelques mètres plus loin.
Je trouve que les gens sont un peu mal éduqués comme ça, enfin, ça se fait pas quoi. Ça flambe un peu partout à cause des mégots et tout.
C'est dur d'inculquer ça aux gens. C'est une question, je pense, d'éducation de base.
Selon une étude de Vinci Autoroute, 17% des fumeurs reconnaissent jeter leur mégot par la fenêtre de leur voiture. C'était le cas de Thierry il y a encore quelques années.
Mais probablement arrivé de jeter des mégots. On parle de ça il y a 30 ans, donc forcément la sensibilisation, elle était bien moindre qu'aujourd'hui, on en parlait beaucoup moins.
Malgré la prévention sur les risques d'incendie et malgré l'impact écologique catastrophique des mégots de cigarettes, Frédéric Patrouilleur pour Vinci Autoroute depuis 3 ans n'a constaté aucune évolution des comportements.
Là on est au bord d'une forêt, si vous regardez le bord du trottoir, il y a des mégots partout, là on va avoir tout nettoyé et le lendemain il y a tout à refaire, c'est sans fin.
Jeter son mégot par terre est aujourd'hui puni par une amende de 135 €. Évidemment, si ce geste est à l'origine d'un incendie, la sanction monte jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende.
Un fumeur sur cinq qui jette encore son mégot par la fenêtre de la voiture. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça vous choque à l'heure où on vit ces méga feux? 32-16 et le WhatsApp RMC 06-12-424-424.
Et en plus du monde, sur la route ce week-end, une grève SNCF, grève surprise des conducteurs et des contrôleurs. 67 trains supprimés aujourd'hui en direction de la Normandie.
Et là aussi, si ça vous fait réagir, vous composez le 32-16. Je passerai un coup de fil juste après le journal à l'un des représentants syndicaux qui appellent à cette grève.
Cela faisait depuis 5 ans que la ville de Ceuta n'avait pas connu ça. Plus de 1500 arrivées illégales de personnes migrantes ces derniers jours depuis le Maroc, dont cette enclave est frontalière. 9 personnes sont mortes hier en tentant d'arriver par le Maroc à la nage. Le président de la région parle d'une urgence humanitaire sociale absolue. Romain Cluzel, service politique d'RMC, ces arrivées très nombreuses depuis quelques jours font beaucoup réagir à droite et à l'extrême droite.
C'est le cas par exemple du président du RN, Jordan Bardella. Il s'alarme de cette arrivée illégale d'immigrants sur le sol européen et il réclame au gouvernement de renforcer en urgence les contrôles à la frontière avec l'Espagne. Une demande faite également par 2 élus de la droite LR, l'ancien Premier ministre Michel Barnier et l'eurodéputé François-Xavier Bellamy. Le président de Reconquête, Éric Zemmour, va beaucoup plus loin et évoque une invasion. Il est rejoint par d'autres responsables d'extrême droite en Europe, notamment en Espagne, en Allemagne et en Italie. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, dit même envisager la fermeture de l'espace Schengen entre son pays et l'Espagne. Une déclaration qui vire à la crise diplomatique. C'est de la démagogie, répond le gouvernement espagnol, qui convoque l'ambassadeur italien.
Romain Cluzel, la France gèle les avoirs de la chroniqueuse russe Xenia Fedorova après l'avoir visée par un arrêté d'expulsion. Cette chroniqueuse employée par les groupes Canal+ et Lagardère est accusée par le gouvernement de relayer la propagande du Kremlin. Une étape monumentale des mots de Donald Trump, l'accord pour le désarmement du Hamas. Le président américain affirme qu'Israël quitterait la bande de Gaza une fois le Hamas désarmé. Des responsables du mouvement palestinien comptent sur les médiateurs pour obliger Israël à respecter les termes de cet accord.
Plus que quelques heures avant l'ouverture de la billetterie pour les prochains matchs des Bleus au Stade de France.
Et surtout les premiers dans ce stade mythique de Zinedine Zidane comme sélectionneur des Bleus. Ce sera début octobre. Les places sont mises en vente cet après-midi et Léo Piedaniel, les supporters sont déjà prêts.
Thibaut est un fervent supporter de l'équipe de France de football. La première de Zidane en France, il veut la vivre et pour ça, tous les moyens sont bons.
Je mets surtout en place d'abord le réseau avec mes amis. On est 2 ou 3 pour essayer d'avoir des places. Je vais essayer de me connecter, on va dire, 30 minutes avant.
Le match auquel il aimerait assister, c'est celui contre l'Italie, tout comme Geoffrey.
Le lieu à être le 2 octobre, c'est au Stade de France. C'est le match à ne pas louper. On pourra en parler pendant des heures de cette confrontation France-Italie avec en plus Zidane.
Lui a déjà obtenu son sésame depuis la semaine dernière car il est membre des Bleus et Fiers, club de supporters affilié à la FFF. Son président, Jean-Baptiste Montarnier, a pu partager le lien de la billetterie en avance et a constaté un engouement inédit pour l'équipe de France parmi sa centaine d'adhérents.
J'avais une cinquantaine de places allouées par la FFF qui sont parties très très vite. J'ai eu à peu près x3, x4 par rapport aux demandes classiques et je pense qu'il restera pas beaucoup de billets pour le grand public.
Et si vous voulez quand même tenter votre chance, sachez que la billetterie en ligne ouvre à 14h.
Et puis on apprend ce matin la mort à 66 ans d'une légende du foot italien, Franco Baresi, qui est mort, c'est ce qu'annonce le Milan AC, dont il a été l'emblématique capitaine.
Clara Gabillet pour le journal sur RMC.